Donc maintenant, notre petite séquence à nous, on va essayer de garder notre petit timing. Donc qu'est-ce qui se passe 2001? Ben, vous le savez, il y a deux choses qui se passent en 2000-2001. Il y a d'une part une nouvelle série de lois qui concerne la ville. C'est le vote de la loi SRU qui vise à introduire une obligation de pourcentage de logements sociaux, donc les 20% de logements sociaux dans toutes les communes, qui aussi insiste sur la nécessaire concertation. Et enfin, attire l'attention sur la nécessité environnementale. Donc ce sont trois choses extrêmement importantes puisqu'elles introduisent, je dirais, du qualitatif dans un système urbain qui était jusqu'alors plutôt dirigé par du quantitatif puisque les outils de PLU, pardon, de POS, étaient plutôt des outils zonés et que tout le système immobilier se fabriquait mètre carré par mètre carré avec des fonctions différenciées. Et donc, qu'est-ce que dit le PADD de Paris, puisque tout ça s'organise sur un document qui s'appelle le plan d'aménagement et de développement durable? Il dit trois choses. Améliorer le cadre de vie de tous les Parisiens, réduire les inégalités pour un Paris solidaire et développer la coopération intercommunale et affirmer la fonction de Paris métropole au cœur de son agglomération. Donc, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Seine depuis, puisque on pourrait dire que ces trois objectifs ont été en partie atteints. En tout cas, ce sont des objectifs qui sont sur la table. Et dans les années 2001-2003, quand on a travaillé la ville à la, je dirais, à la préparation, à la transformation de ce document du poste de 77, qui était ce document des tissus constitués, en fait, on a rajouté, vous allez voir, c'est des cartes qui se promènent, on a rajouté des couches. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé les filets de hauteur, on n'a pas enlevé tout ce soutien au tissu constitué. On a rajouté une couche que moi, je qualifie d'une couche politique. Il se trouve qu'elle était rose et bleue dans les couleurs. Donc ça, ce sont les hasards de la vie. Mais c'était une couche qui visait à dire il faut faire un rééquilibrage territorial dans Paris. Et donc, il faut avoir des traitements différenciés, non pas en termes de formes urbaines, mais en termes de contenu de ce qu'on met dans les mètres carrés pour assurer un rééquilibrage parisien. Et aujourd'hui, dans les cartes, Paris est la seule ville de la métropole qui a des îlots de mixité sociale, c'est-à-dire des îlots dans lesquels on trouve des gens très aisés, des gens très pauvres et des classes moyennes. C'est important de le souligner dans un moment où beaucoup s'interrogent sur savoir comment on va arriver à faire ce rééquilibre territorial métropolitain. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui était assez amusant, j'étais donc à l'époque au cabinet de Bertrand Delanoë et une des premières notes que j'ai eu à faire, c'était pour m'opposer à une décision de l'APURE et de la direction de l'urbanisme sur le développement du Nord-Est parisien. Sur les choix qui étaient préconisés par ces deux structures, qui étaient justement de préconiser pour le développement de ce territoire que vous connaissez, qui est entre la porte de la Chapelle et je dirais la porte des Lilas, qui était d'avoir justement un développement de tissus constitués type haussmannien, si l'on peut dire entre guillemets. Et à l'époque, au cabinet du maire, on avait beaucoup écrit pour la campagne sur le renouvellement urbain de la couronne de Paris, en nous appuyant beaucoup sur des travaux de l'APURE et en disant, je crois que le tissu dans lequel, là, on doit faire du développement, ne permet pas ces tissus à la mode parisienne, si je puis dire. Il faut inventer d'autres formes d'urbanisme. Et il y avait une proposition de François Leclerc qui consistait à proposer des îlots pour travailler à un lien nouveau entre les infrastructures et le système urbain. Et c'est aujourd'hui ce qui a permis la préservation du grand bâtiment McDonald's, sur lequel plus de 1000 logements ont été développés. C'est ce qui a permis, je dirais aussi, l'installation quelque part de la fin du tramway sur les Maréchaux. C'est la couverture à la porte des Lilas. Enfin, ce sont d'autres dispositifs qui ont accompagné la ville. Il faut que toi, tu me fasses le timing pour moi, quand je parle trop longtemps. Voilà. Donc, l'APURE, pendant ce temps-là, donc, a fait énormément de choses. L'APURE, d'une part, à cette période-là, a fait trois ou quatre choses extrêmement importantes. D'une part, il s'est occupé de la connaissance de la population parisienne. Donc, nouvel exécutif, une attente à la personne. Donc, l'APURE a créé des observatoires sur les familles, sur les handicapés, sur les exclus, sur le commerce. On a fait la BDCOM et sur l'habitat indigne. Et la ville de Paris, dans cette période, pendant ces 10 années, a assuré, en créant un outil spécifique, la résorption de l'habitat indigne à Paris. C'était la fin, je dirais, de ce qui avait été enclenché par nos prédécesseurs, qui avaient déjà commencé à, d'une part, à préserver le tissu parisien, mais aussi à donner des conditions pour sa rénovation. Donc cette lutte contre l'habitat indigne, c'est quelque chose qui peut vous paraître aujourd'hui peut-être un épiphénomène. Je rappelle que Jean-Louis Subillot indiquait que en 68, la moitié des logements parisiens n'avaient pas de toilettes. C'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a quasiment plus. Il y en a encore quelques-uns qui ont les toilettes sur le palier. Mais en tout cas, tous ont des points d'eau, etc., etc. Et ça reste des toutes petites choses. Et ça concerne aujourd'hui un patrimoine de 1 300 000 logements. Donc, c'est absolument pas négligeable. C'était un gros effort. Et depuis, je parle de l'habitat indigne, des indicateurs ont pu être mis en place grâce aux travaux de la PURE. Et ce sont les indicateurs qui aujourd'hui servent aux acteurs publics pour prévenir l'habitat indigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, en fonction de quelques indicateurs, comment une copropriété pourrait se dégrader. Et donc, on peut intervenir en amont, ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher, à la fois pour les copropriétaires et pour la collectivité. Dans les autres données, les autres documents importants, c'est que Paris a toujours continué à travailler, évidemment, sur l'espace public. Christiane l'a souligné. Mais le fameux plan vélo de Léonore Coutinho, utopique, je dirais, peut-être des années 70, on a fait un schéma directeur du réseau cyclable. Et aujourd'hui, il y a un plan vélo qui s'installe, avec toujours les éternelles difficultés de savoir quel type d'esthétique on met à côté de ces choix de programmation. Christiane a expliqué la question de la bordure de trottoir. La bordure de trottoir est quelque chose qui nous mobilise toujours beaucoup à la PURE, parce que selon sa hauteur, elle rend l'espace public plus ou moins agressif, et en même temps, elle permet aussi plus ou moins facilement l'écoulement de l'eau. Donc on est toujours tiraillé entre un système efficace et puis une forme d'esthétique qui fait qu'on se sent bien dans la ville. Donc la PURE a cette particularité qui a été, je dirais, mise en place par les anciens, mais qui, je pense, s'est encore amplifiée aujourd'hui, de mettre les mains dans le cambouis et de regarder les choses de près. Et quelqu'un posait la question de la Seine. Bien évidemment, quand Bertrand Delanoë a été élu, il a choisi d'installer Paris Plage, donc déjà de commencer à transformer les usages de la berge rive droite. Il nous a demandé de réfléchir à la fermeture de la berge rive droite, et on a dit c'est un peu tôt. On n'a pas dit c'est pas bien. On a dit c'est un peu tôt. On suggère de mettre des feux de circulation, et par contre, on peut fermer la berge rive gauche. Et du coup, c'est ce qui a été fait. La berge rive gauche a été donc rendue aux piétons, avec en plus un exercice qui peut-être vous paraît comme ça anecdotique, mais il y a un grand escalier qui vous permet maintenant de vous installer devant le musée d'Orsay. Donc vous aviez réussi à faire conserver le musée d'Orsay, et nous, on a réussi à installer un objet dans un endroit où on n'a pas le droit de construire, puisqu'il est patrimoine mondial de l'UNESCO, et sous avis conforme des architectes des bâtiments de France. Donc on l'a fait, sachant que tout ça peut se démonter en moins de 24 heures. Donc tout le monde essayait quand même de respecter les cahiers des charges. L'idée de la PURE n'est jamais de rendre les choses impossibles. On se bat avec des convictions et on considère que le temps est notre allié. Donc l'important, c'est de poser les bons jalons au bon moment, et ce sera les questions qui seront posées à la dernière séquence, et quels sont les jalons qu'il convient de poser aujourd'hui pour qu'on assure ce qui va arriver dans 20, 30, 40 ans, ou parfois même dans 2, 3 ans. Le temps de la ville est très élastique. Donc, dans les nouveaux documents aussi sur lesquels on s'est mis à travailler, c'est ce qui ne se voit pas dans la ville. Donc, nos anciens ont beaucoup travaillé sur la forme urbaine, et là, le socle est très, très costaud, très solide. Et nous, on pense qu'il pourrait s'appliquer maintenant à l'échelle métropolitaine. Les tissus constitués existent dans la banlieue parisienne. C'est du pavillonnaire, c'est des tissus mixtes. Ce sont des tissus parfois plus récents, de composition grands ensembles, comme le disait un des intervenants. Et nous, on pense que le travail que vous avez effectué devrait trouver sa continuité naturelle dans cette métropole. Et on pense que le tissu pavillonnaire a une énorme importance. Pourquoi ? Parce qu'il apporte des éléments extrêmement, indispensables pour les équilibres des îlots de chaleur urbains et pour l'adaptation au changement climatique. Donc les îlots de chaleur urbains, l'adaptation au changement climatique, l'infiltration de l'eau, la question de l'énergie, la question des déchets, la question de la logistique, tous ces sujets sont maintenant totalement, pas maîtrisés, mais en tout cas on les a cartographiés, on les a rendus visibles, ces sujets qui construisent la ville pratiquement tout autant, que les espaces bâtis, parce que vous avez parlé du lien indissociable entre la ville et la voiture, qui ont fait partie de ces grandes questions urbaines des années 50. Aujourd'hui, on est dans les mêmes discussions, c'est comment on accepte de modifier cet espace pour qu'ils soient réellement performants du point de vue des obligations que nous avons par rapport au changement climatique. Dans la matinée d'hier, beaucoup des intervenants ont parlé de la beauté et de la question de l'esthétique, qu'il fallait réinventer une esthétique nouvelle. C'est celle de la nature dans la ville, c'est celle des pieds d'arbres. Vous avez beaucoup de pieds d'arbres aujourd'hui à Paris sur lesquels nous on travaille en disant qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas interdire ? Comment on fait pour l'autoriser ? Est-ce qu'on garde les grilles ? Est-ce qu'on garde pas les grilles ? On est au bicentenaire d'Alphand. Cette question-là, elle est importante dans Paris, mais des questions qui vous paraissent peut-être plus ténues. Il faut infiltrer l'eau. Quand on infiltre l'eau, ça veut dire qu'on accepte que le trottoir, parfois, ait des flaques d'eau. À Paris, le trottoir n'a pas de flaques d'eau. À Paris, l'eau, elle disparaît, elle descend du toit, elle passe dans une gouttière, elle va directement dans un égout et ensuite elle est traitée dans des usines adaptées au traitement de l'eau. Demain, il va falloir que cette eau, elle descende du toit, peut-être pas, elle aille dans une gouttière, peut-être pas, et la gouttière, pas dans le caniveau et pas dans l'égout. Donc ça, c'est une énorme question qui concerne chaque mètre carré de la ville. Et ce sont ces sujets-là qui, aujourd'hui, animent la pure, les déchets. Aujourd'hui, on ne traite pas assez nos déchets. Si on voulait répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes par la loi, eh bien, il faudrait doubler les surfaces consacrées au traitement des déchets, au tri des déchets, ce qui veut dire deux fois plus de poubelles dans la ville. Je sais que le directeur de la propreté est là et il écoute religieusement. Je sais. Voilà, donc je crois que ce sont des choses où la pure a décidé de s'engager sur ces sujets-là, comme il l'a fait, je dirais, avec le même enthousiasme, la même énergie et la même générosité, en tout cas, je l'espère, de celle portée par Léonore, Jean-Louis, Nathan Starkman, François Gréter, parce que on ne se sent pas déjugé parce qu'on ne travaille plus sur la forme urbaine. On se sent au contraire toujours essentiel. Et je crois que c'est important de savoir où on est essentiel. Et c'est le travail que l'on mène au quotidien. Et c'est pour ça aussi que l'on regarde l'histoire. Je crois que je ne sais plus qui disait qu'on ne partait jamais d'une part. Pardon, c'est la maire de Paris qui, hier... Excusez-moi, je me suis couchée extrêmement tard. Ce n'était pas du tout raisonnable. Mais on avait un after. C'était épouvantable. Mais c'était fantastique. Et donc la maire de Paris, hier, disait qu'on ne partait jamais d'une page blanche. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'arriver toujours à se dire, c'est quoi l'endroit où nous, on apporte à la ville demain. Et donc ça, c'est alimenté par l'histoire, alimenté par le citoyen, par ce que font les associations, ce que disent les gens, les signes faibles de la société. Aujourd'hui, on a des comportements citoyens qui génèrent des services publics plus puissants que le service public programmé par la puissance publique. Je peux prendre comme exemple le vélo. Puisque vous avez vu arriver ces petits vélos verts qui sont une offre privée, alors qu'en parallèle, la ville développe un service qui a été lauréat d'un appel d'offres pour avoir des vélos publics, c'est le Vélib. Mais on pourrait tirer le fil à l'infini. Cette ville autrement, c'est celle qui permet... hier, on avait montré une photo sur la place de la Nation de gens en train de casser le bitume. Et les intervenants qui venaient de loin pensaient que c'était un photomontage. J'ai dit non, c'est une vraie photo. C'est-à-dire que les citoyens ont démoli la place de la Nation, légèrement, hein, ne vous inquiétez pas, mais suffisamment pour permettre d'autres usages. Donc voilà où on est la pure aujourd'hui, dans un système encore plus hybride, je dirais, que dans les années 60, mais qui ne se sent pas perdu pour autant, même si parfois, quand vous allez sur le site, et c'était l'idée de présenter un peu tous ces travaux, on est un peu affolé par la diversité des sujets en se disant « mais il touche à tout ». Et quelqu'un qui touche à tout dans ce monde n'est pas considéré comme quelqu'un de compétent. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui nécessite de tout écouter pour développer les bonnes compétences au service des bonnes politiques. Merci. Alors, maintenant, je passe la parole à Patricia, qui est Madame Jeux Olympiques.
Donc bonjour. Donc je vais poursuivre par les travaux en fait qui ont concerné les candidatures aux Jeux Olympiques et Paralympiques sur cette période-là. Donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est évidemment une formidable aventure sportive, mais à chaque fois ces candidatures ont été un puissant accélérateur de politique publique. Alors est-ce que ça marche ? Voilà. Donc Paris s'est portée candidate 4 fois. En 1992, les Jeux donc, seront réalisés à Barcelone. En 2008, Pékin. En 2012, Londres. Et enfin, en 2024, à Paris. Donc, il aura fallu attendre 100 ans pour pouvoir réorganiser les Jeux. Ce qui est dit, c'est qu'apparemment, c'était visiblement le bon moment, la bonne période, pour pouvoir les organiser. Donc à chaque fois, Paris a su tirer parti de ces candidatures, des projets qui ont été réalisés à l'occasion de ces différentes, candidatures. Quentin, je pense qu'il vaut mieux que tu passes. Cette image, simplement pour montrer que le projet de Bercy a été réalisé, a été en tout cas étudié au moment de la candidature de Paris à l'exposition universelle de 1989. Le site de la gare de Tolbiac, qui était évoqué tout à l'heure par François Gréter, a aussi été travaillé comme un site majeur pour la candidature de 92. Donc on voit que ces candidatures ont toujours été l'occasion de révéler des territoires, de pointer un regard important, de fixer une certaine ambition pour l'aménagement de ces différents sites. Donc quand Paris se porte candidate pour 2008, donc c'est en 2000, c'est différent, ces terrains-là ne sont plus disponibles, les terrains du Sud-Est, et surtout le Grand Stade, qui est devenu donc le Stade de France, est construit, et donc le regard s'inverse, on part du Stade de France quelque part, et on regarde vers Paris. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a également la proposition de faire un boulevard des sports, de la porte de la Villette à la porte de la Chapelle. Donc là, on est toujours dans les années 2000, et c'est ces études-là qui font le socle pour l'aménagement à la fois de la plaine Saint-Denis et aussi pour Paris Nord-Est, qu'évoquait tout à l'heure Dominique, avec aujourd'hui le travail qui est conduit par François Leclerc. La candidature pour 2012 est aussi l'occasion, évidemment, de continuer de travailler sur le nord-est parisien. Donc là, le village olympique revient dans Paris. Le village est proposé comme un nouveau quartier à terme. Ça, c'est important, en tout cas, je pense, de le souligner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans ces candidatures, le village olympique, on n'est pas du tout dans un urbanisme de l'événement, mais plutôt comme les Jeux constituent, quelque part, en fait, un urbanisme transitoire, estival. Et le village des athlètes n'est qu'un moment, qu'une saison, dans cette vie du quartier. Alors évidemment, c'est un moment un peu fort, un peu exceptionnel, mais l'idée, c'est bien que ce projet est construit comme à terme post-JO. Donc vous avez simplement sur cette image le plan qui a été fait en 2004 par François Gréter et Jacqueline Osti, avec la ville de Paris, la SPLA Paris, c'était la SEMAVIB devenant la SPLA Paris-Batignolles. Et vous avez donc l'image du projet tel qu'il est réalisé largement aujourd'hui. On voit qu'en réalité, tout était mis en place et en tout cas que les grandes orientations sont restées intactes, même si Paris, donc évidemment, n'a pas gagné les Jeux et que les Jeux se sont réalisés à Londres. Donc aujourd'hui, on est encore dans ce dispositif-là, c'est-à-dire à chaque fois, le village olympique est vraiment pas étudié uniquement pour les Jeux, mais bien pour répondre aux différentes populations. Alors, ça c'était pour les enseignements, je dirais des candidatures passées. Aujourd'hui, la candidature donc gagnante de 2024 est assez différente. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que déjà, l'agenda 2020, le CIO a réalisé un agenda 2020 en 2014 qui dit qu'il faut être plus économe, qu'on peut davantage s'appuyer sur les équipements existants. On peut proposer des sites qui sont isolés. On n'est plus obligé de faire un grand parc olympique qui rassemble l'ensemble des équipements. Ce qui fait que ça ouvre la possibilité à utiliser des équipements existants qui sont un peu plus dispersés à partir du moment où les temps de transport sont efficaces. Donc ça tombe bien puisque aujourd'hui aussi dans la logique de projet urbain, comme vous le savez, on a un regard beaucoup plus bienveillant, attentif par rapport à l'existant. Donc les deux approches, même si elles sont faites de façon complètement opposée, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que le monde olympique et le monde des urbanistes a été pensé de façon concomitante. Mais en tout cas, ça permet aujourd'hui... Ouais. Alors, je veux bien la slide d'avant, puisqu'en fait, il y a des équipements qui ont été réalisés. Donc ça, c'est l'héritage de 2012. Le vélodrome, qui a été réalisé à Saint-Quentin-en-Yvelines. La base de Vers-sur-Marne, qui a été donc qui est la base nautique pour le canoë et l'aviron. Également, l'U-Arena de Nanterre, qui vient justement d'être inauguré le mois dernier, et également le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin, qui ont été rénovés. Donc c'est vrai qu'on a ces acquis-là, qui font qu'aujourd'hui, le projet, on est avec un niveau d'équipement qui est bien meilleur que par les candidatures passées. On n'est plus obligé de construire tous ces équipements qui répondent évidemment aux normes qui sont demandées. Si on poursuit donc les images très rapidement, évidemment le Parc des Princes qui a été rénové, Paris Arena 1 qui a également été rénové. Évidemment, le tennis et plus, de façon plus originale la boxe se dérouleront à Roland-Garros. Le Stade de France accueillera la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture et l'athlétisme. Et le centre de Paris et notamment tous les sites patrimoniaux sont mis au service des Jeux. Donc là, vous avez en fait une illustration de ce que pourra être donc les Jeux, les extraordinaires au centre de Paris, avec évidemment la Seine qui est au cœur du dispositif, qui est un axe de célébration. Le beach volley qui se déroulera donc sur le Champ de Mars. Traditionnellement, le cyclisme sur les Champs-Élysées, le tir à l'arc sur l'esplanade des Invalides, l'escrime et le taekwondo au Grand Palais, et également l'équitation dans les jardins au niveau de l'Étoile Royale du Château de Versailles. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les sports ont été proposés et ajustés en fonction de l'histoire de chacun de ces sites pour poursuivre et être complètement adaptés. Pour autant, si sur les sites de compétition, on s'est vraiment basé sur les sites existants, l'héritage à la fois matériel et immatériel sera majeur également pour ces Jeux. La première illustration, c'est cette carte-là qui permet d'assembler à la fois les sites olympiques et le métro du Grand Paris, qui montre assez clairement que ces deux projets commencent à constituer la géographie du Grand Paris, avec Roissy au nord, qui est évidemment là une porte d'entrée, Orly au sud, à l'est vers Sur-Marne et à l'ouest Versailles. Le projet va consister à continuer de poursuivre et d'accélérer les liens entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Donc un grand nombre de projets seront réalisés en Seine-Saint-Denis. Vous avez le village olympique qui se situe à Pleyel-Bord-de-Seine sur votre gauche. Tout au nord, le cluster du Bourget au niveau du pôle métropolitain. Et au centre, le Stade de France avec le centre aquatique qui va permettre aussi le développement de la plaine Saunier, articulant le centre-ville de Saint-Denis et le nouveau Saint-Denis qui a été réalisé récemment. Pour montrer quelques images en fait, des deux programmes urbains majeurs pour ces Jeux, le village olympique, donc à Pleyel-Bord-de-Seine, qui a été étudié, en fait, Lapure a proposé ce site-là, c'est Lapure qui a proposé ce site pour la localisation du village olympique, et les études se sont poursuivies ensuite par Paris 2024, en lien évidemment étroit avec Pleine Commune, et l'équipe constituée autour de Dominique Perrault, la Fabrique de la Ville, donc Jean-Louis Subilo, Lynn, Gustafson Porter, Topager, Ingérop et Algoué. Si j'ai oublié personne, c'est toujours risqué de commencer à citer, mais ça me semblait vraiment important de citer cette équipe qui a travaillé donc pendant un an et demi. Donc évidemment, le bord de Seine, c'est assez emblématique puisque c'est un facteur d'identité à la fois de Paris et du Grand Paris. Et puis le village est situé dans le quartier du futur hub du métro du Grand Paris avec le pôle qui va permettre de relier la ligne 13, 14, 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris. Pour poursuivre, vous avez quelques images ici, la Cité du cinéma sera au cœur du village avec le restaurant principal qui est un lieu important. C'est aussi une particularité par rapport aux candidatures passées. Généralement, le grand restaurant où se réunissent les 17 000 athlètes, c'est simplement une tente. Là, ce qui est proposé, c'est aussi une particularité parisienne de travailler avec le patrimoine et de proposer une ambiance très caractéristique. Autre élément important, c'est que, qui fait écho à la période précédente et aux différents travaux, c'est que le village est voulu comme un démonstrateur de l'exemplarité environnementale qui aujourd'hui est étudiée. Donc ça, ça concerne tous les volets, pour en citer que quelques-uns, évidemment, travailler sur tous les cycles de l'eau, sur évidemment la trame verte, sur les jardins, le fait de systématiser des jardins sur les toits, ça entraîne en fait une proposition de 15 mètres carrés par ménage, ce qui est quand même énorme, 15 mètres carrés par logement, à partir du moment où on généralise ce principe à l'ensemble du village, 100% de matériaux biosourcés, l'objectif de 100% d'énergie renouvelable, zéro déchet sur ce territoire, et je pourrais encore citer évidemment d'autres volets qui sont étudiés sur la logistique, bien évidemment, qui va s'appliquer à la fois en phase chantier, en phase du village, pour également l'alimentation, pour les circuits courts et le post-olympique. Voilà donc une image pendant le village, la baignade en Seine. Et l'autre élément, donc facteur important, c'est que les Jeux permettent aussi de mettre en lumière le pôle métropolitain du Bourget. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques années, mais ça avait du mal en fait à se concrétiser. Le fait que tous les acteurs se réunissent et se fédèrent autour du projet des Jeux Olympiques fait que ce territoire-là a pu être vraiment, vraiment travaillé. Donc le point d'ancrage, c'est bien évidemment le centre des médias. C'est un programme important pendant les Jeux, puisque c'est le lieu où travaillent les 20 000 journalistes, puisque en fait c'est énorme comme programme. Et là, on n'a pas besoin de construire ce centre des médias, puisqu'il est réalisé dans le parc des expositions du Bourget. Donc ça, c'est vrai que le parc des expositions du Bourget a vraiment montré son efficacité, à la fois fonctionnelle et aussi en termes de sécurité, avec la COP21. Qui a été réalisé donc en décembre 2015. On a proposé de faire un village des médias, proximité immédiate, ou une proposition qui permet de loger 4000 journalistes. Mais je dirais que ça, c'est pas le plus important. Ça, pour cela, le projet s'appuie sur un projet qui préexistait et qui a permis d'être accéléré. Projet porté par les collectivités pour lier la ville de Dugny à la ville du Bourget. C'est un projet qui est porté à la fois par l'EPT Terre d'Envol, le CD93, et qui est étudié donc par l'équipe TVK et Urban Eco sur ce site. Évidemment, en lien avec Paris 2024 et avec Populouse. Donc vous avez là les images qui défilent de ce secteur-là, où là, évidemment, également, il y a un travail qui est fait sur l'exemplarité environnementale, avec un très grand débat qui a eu lieu sur le fameux terrain des essences. Et les Jeux vont permettre de contribuer à pérenniser et à renaturer ces 13 hectares de façon à agrandir le parc Georges Valbon sur ce territoire. Enfin, l'héritage, je dirais, matériel va concerner donc quelques équipements sportifs, toujours au bénéfice des populations. Donc l'unique équipement qui est construit spécifiquement pour les Jeux, c'est le centre aquatique. Il est proposé donc de réaliser le centre aquatique en face du Stade de France et de relier ces deux grands équipements majeurs par une nouvelle passerelle. C'est aussi une manière de réinscrire le Stade de France, qui est aujourd'hui un petit peu une enclave, dans un réseau d'espaces publics et de pouvoir connecter le quartier du Stade de France avec le nouveau quartier en devenir sur la plaine Saunier, qui est étudié à la fois par la ville de Paris, puisque la ville de Paris est propriétaire du site, avec Plaine Commune et avec l'agence François Gréter et de nouveau la fabrique de la ville sur ce site-là. Juste pour continuer, j'ai bientôt fini, Dominique, je n'ai pour deux minutes. les équipements sportifs, l'image d'après, Quentin, s'il te plaît. Donc le site de water polo pour les Jeux aura lieu dans le parc interdépartemental de Marville, dans une piscine qui aujourd'hui donc est très dégradée. Donc les Jeux vont permettre de rénover complètement et de mettre cette piscine à des hauts standards. Et également l'image qui suit sur l'île des Vannes. pour organiser les Jeux, il y a la nécessité d'offrir des sites d'entraînement. Donc, bien évidemment, on s'appuie sur l'ensemble des équipements sportifs qui sont très nombreux et très denses dans la métropole. Et il a été proposé que quelques équipements soient rénovés. Donc, en l'occurrence, celui-ci qui me semble vraiment important, qui est dans un lieu incroyable, donc à la confluence de la Seine, enfin, du Grand Bras et du Petit Bras sur l'île Saint-Denis, mais c'est une propriété de Saint-Ouen. Ces équipements-là, et notamment la nef, est dans un état qui est très dégradé. Donc c'était tout à fait logique, du fait de la proximité du village, que les Jeux soient l'occasion de rénover ce site-là, qui va accueillir le site d'entraînement à la fois de la boxe, de la gymnastique et de l'athlétisme. L'élément, évidemment, en héritage important, c'est la baignade. La maire de Paris, toute la ville de Paris s'est engagée à proposer des sites de baignade en plein cœur de Paris. Le projet, il est déjà réalisé, puisque cet été, la baignade pouvait déjà avoir lieu dans l'eau du canal. Mais les Jeux vont permettre de définir une échéance et de garder l'échéance de 2024 pour avoir le site de baignade dans la Seine. Ici, c'est une illustration au niveau du Trocadéro, et le travail est en cours actuellement entre les services de la ville, Port de Paris, VNF, pour arriver à réaliser, et la pure bien évidemment, pour travailler ce site-là. Et pour finir, donc pour faire écho aussi aux conférences qui ont eu lieu hier, Paris 2024 avec ses membres fondateurs a l'ambition de développer, de servir des Jeux pour développer et poursuivre le développement d'une société qui est plus inclusive, plus sportive et également plus résiliente. Donc il y a toutes les actions sur les parcours sportifs et des exigences environnementales qui sont travaillées, qui ont démarré dès la phase de candidature, qui se poursuivent dans les 7 ans à venir et au-delà, ce qui ouvre donc la période suivante qui vous sera présentée.
J'aurais voulu préciser une chose que je n'ai pas dite. Patricia Peloux est directrice adjointe de la Pure et elle a été détachée pendant 18 mois au GIP Paris 2024.